Deuxième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire du textile. Aujourd'hui, jusqu'à 10h, notre documentaire du mardi. Après l'entretien que nous avons eu hier avec une chercheuse en histoire et anthropologie du textile et avant demain de nous intéresser au commerce des Indiennes au XVIIIe siècle, nous vous proposons ce matin un documentaire signé Séverine Yattar et Séverine Cassard. Toutes deux nous racontent l'histoire d'une grève de femmes dans une usine textile avec occupation dans le nord de la France, la particularité de cette longue grève de 3 ans dans la deuxième moitié des années 70 et qu'elle a donné lieu, une fois le conflit terminé, à une enquête de 2 sociologues, Margaret Marouani et Annie Borzex, pour laquelle elles demandèrent à chacune des actrices de cette occupation ce qu'elles avaient gardé de cette expérience jusqu'à 10h. Ce matin, dans la Fabrique de l'Histoire, le temps d'une enquête, le temps des chemises, un documentaire de Séverine Yattar et de Séverine Cassard.
La CIP, confection industrielle du Pas-de-Calais, cherche un patron. Cette société comprenait il y a quelques mois 4 ateliers, Hasbrook, Neulémines, Houdin et Haines-les-Labassé. Depuis le début de l'été, la production est arrêtée dans les 4 ateliers. Ici, à Haines-les-Labassé, les 250 ouvrières occupent l'atelier jour et nuit. La barrière est fermée à clé et 2 camions, pneus dégonflés, forment un barrage dans la cour de l'usine.
Mais alors, pour rentrer dans la cour, il fallait...
Traverser le camion.
Traverser le camion, voilà. Oh, c'était une vraie... Je ne le ferai plus, hein, parce que mes genoux sont en mauvais état, je ne le ferai plus. Et alors, on a eu la visite au début du conflit, hein, et de mon maire, qui était secrétaire général de la CFDT à ce moment-là, hein, et Pierre Mauroy, qui était le maire de Lille, et qui avait été ministre... Non, pas encore. C'est après qu'il est venu. Puis on a su qu'il venait nous rendre visite, alors... Oh. Là, il y a eu du monde hein, dans le réfectoire. Ouais. Près de 300 personnes. Hein. On a fait un repas froid, des crudités et tout, du jambon. Et puis de la mayo. Je crois que j'ai jamais vu autant de mayonnaise de ma vie parce que des litres et des litres. C'était une copine qui habitait 20 qui avait amené son gros robot et on faisait de la mayo à tour de bras. Et puis, oh là là. Mais c'était ça aussi, c'est un... Oui, mais c'est un truc qu'on a vécu mais qu'on ne revivra jamais plus. C'est pas possible, ça. Pas possible de revivre ça. Ouais.
Le temps des chemises, le temps d'une enquête. Un documentaire de Séverine Yattar et Séverine Cassard.
Notre objet, c'était d'avoir l'histoire de la grève, bien sûr, mais au-delà, les lendemains de la grève, ce qu'il reste, les traces, ce que ça a changé dans leur vie syndicale, dans leur vie professionnelle, dans leur vie d'ouvrière, mais aussi dans leur vie de femme, dans leur rapport avec leur famille, leur mari, leurs enfants. Et tout ça, elles nous l'ont dit bien volontiers parce que ça fait partie aussi de l'histoire de cette grève.
Vous avez beaucoup ri aussi, non ?
Oh oui, on a beaucoup ri. Et c'est ce que je vous disais au téléphone, c'est que quand on lit notre livre, Le temps des chemises, on a l'impression qu'on fait lire notre livre à quelqu'un qui n'a pas vécu le conflit, il va dire, mais finalement, ils se sont bien amusés. Mais non, on n'a pas toujours rigolé.
Non.
Pas toujours. Non. Mais heureusement qu'on rigolait entre deux. Comme on était devenus copines, on faisait des blocs soudés, quoi. Et on a connu leur famille, leur mari, et les copines venaient avec leur bébé. Il y en a qui ont appris à marcher à l'usine. Donc, tout ça, ça crée des liens. Et alors, qu'est-ce que c'est vrai qu'on a eu des bonnes parties de plaisir. Hein. Ça, je veux dire...
Nous, ce qui nous tenait à cœur aussi, c'était de faire un livre plaisant à lire et de sortir de, disons, du jargon dans lequel on enferme les conflits sociaux. Même les plus beaux conflits deviennent très ennuyeux à lire souvent. Et on n'avait pas envie de ça.
Elle se nomme Marie-France, Lucie, Huguette, Antoinette, Michel ou Lydie. Et pendant 3 ans, de 1975 à 1978, elles vont organiser une grève autogérée avec occupation d'usine pour sauver leur emploi. Au pays de la mine, l'événement est unique. Des femmes ouvrières du textile résistent à une époque, celle du début de la crise économique qui voit des fermetures d'usines en cascade et des licenciements collectifs massifs. L'issue de la lutte se révèle victorieuse. Mais que reste-t-il quand la grève se retire? Au lendemain du conflit, deux jeunes sociologues, Annie Borzex et Margaret Marouani, mènent l'enquête pendant des mois auprès des actrices d'un mouvement vécu comme une épopée. Une enquête un peu inédite, qui mêle récits de vie, histoire orale et analyse sociologique. Rien n'est plus comme avant. Ces ouvrières ont gagné la grève, mais bien plus qu'un nouvel emploi. De fil en aiguille, elles racontent leur conquête, qui s'appelle assurance, autonomie, indépendance ou confiance en soi.
La confection industrielle du Pas-de-Calais, la CIP, ça avait été un de mes terrains pour ma thèse. J'avais été aussi à l'IP, j'avais été à Rhône-Poulenc, j'avais été à CIA, confection industrielle de l'Atlantique, et j'ai beaucoup travaillé à partir des grèves.
Margaret Marouani.
Et la CIP, c'est une de mes premières enquêtes de ma thèse. Et ensuite, nous y étions déjà allés avec Annie Borzex. Moi, je faisais ma thèse et elle faisait un rapport sur les syndicats et l'organisation du travail. Et on n'avait pas le même objet, mais on a fait la même enquête. On a été allé voir les ouvrières de la CIP au moment où elle faisait la grève. C'était en 1977. Et ensuite, nous avons eu l'idée. En fait, la première idée n'était pas celle d'un livre, mais celle d'un film que nous voulions faire avec Jean-Louis Piel. Et puis, ça ne s'est pas fait. Nous en étions bien désolés. Et de fil en aiguille, si je puis dire, nous avons eu cette idée de faire un livre. Bon, à l'époque, c'était un sujet qui n'était pas beaucoup traité. Les travaux de Madeleine Guilbert, tout de même. Mais quand même, on a pu faire ce livre. Dans les conditions où nous l'avons fait, je ne suis pas sûre qu'on pourrait le faire aujourd'hui, même si ces sujets sont beaucoup plus admis. Pourquoi ? Eh bien, nous sommes allés voir le directeur de notre laboratoire, Jean-Daniel Reynaud. On lui doit vraiment beaucoup. Et on lui dit, voilà, on n'a pas pu faire le film, mais on aimerait bien faire un livre là-dessus, les lendemains de la grève, ce qu'il en est resté. Il a dit, mais quelle bonne idée, mais bien sûr, allez-y, faites-le. Et il en a dit, bon, ben, il nous faut un petit peu d'argent, hein, il nous faut des voyages, des retranscriptions. Eh bien, je vous le donne, dites-moi combien il faut. Voilà, on n'est pas passé devant trois commissions, on n'a pas dû faire un projet de 25 pages, le faire traduire en anglais, le faire expertiser par trois personnes. Ça n'a pas mis un an et demi pour avoir la décision. Il nous a dit « allez-y », et bien on y est allé. On a pris contact, on connaissait déjà un certain nombre d'ouvrières, on connaissait les syndicalistes, et puis ce livre, on l'a fait en un an.
C'était vraiment l'effet qu'un conflit peut avoir sur des individus. Ce qui n'est pas un thème très classique non plus en sociologie du travail, parce que on ne s'intéresse pas tellement aux individus, en général.
Annie Borzex.
Et je pense qu'on en avait assez aussi de nos façons de travailler sur les conflits, parce qu'on travaillait pas mal sur les conflits à l'époque, et c'était toujours sur la manière dont le conflit était organisé, qu'est-ce qu'on avait gagné, qu'est-ce qu'on avait perdu, comment on s'y était pris, etc., les formes d'action. Et là, on avait vraiment envie de faire autre chose et de rendre la lecture de ce conflit plus proche des individus et de leur subjectivité. Je pense que ça nous a beaucoup porté dans notre projet de livre. C'était pas forcément le seul projet qu'on avait en tête. On voulait voir aussi comment des femmes d'une région comme Germinal étaient capables de mener un conflit, leur capacité à mener tout ça de front. Mais je pense que c'était vraiment l'inscription de leur histoire personnelle dans une lutte collective et dans un combat qui avait quand même marché, qui nous a motivés pour écrire ce livre. On a d'abord pris contact avec la CFDT et avec la fédération locale. Et je crois que j'ai retrouvé dans mes carnets de notes le résultat d'un des premiers entretiens qu'on a eu avec quelqu'un de la fédération. Alors, à la fédération, ce monsieur nous disait, vous comprenez, il faut que ce soit utilisable au niveau de la masse. Oui, vous pouvez faire ce livre à condition qu'on puisse relire avant publication. On demandera, chemin faisant, à regarder la forme, l'écriture de ce conflit. On souhaite une page de lutte ouvrière, au sens lutte des classes, qu'on sente une tranche de la classe ouvrière. En tant que responsable fédéral, on peut vous proposer un plan, un squelette, si vous voulez. Voilà la proposition syndicale. Deuxième partie, ça sera sur 3 ans après. On avait dû leur expliquer quand même qu'on voulait faire 3 ans après. Alors, il est au Conseil fédéral. J'en ai discuté au bureau fédéral, vous avez le feu vert. Donc, on a dû passer un petit examen au départ, quoi.
Septembre 1975.
La mise en liquidation de la CIP et l'occupation de l'atelier d'Aisne-lès-Labassé sont l'aboutissement de deux années de difficultés. En décembre 1973, les établissements Bailleul déposent leur bilan, mais le tribunal de commerce de Béthune décide la poursuite de l'activité. Une solution intervient début 1974 avec la création de Bailleul SA, qui deviendra en septembre Confection industrielle du Pas-de-Calais. Cette nouvelle société, la CIP, n'allait pas tarder à connaître de graves difficultés. Dès le printemps, on parlait de fermeture et de licenciement. Pour la CFDT, les difficultés de la CIP ont une seule cause. Les délégués parlent de détournement de clientèle par les nouveaux dirigeants au profit d'un autre établissement implanté, lui, dans le Midi. Le réseau commercial est démantelé. Le 18 juillet, l'occupation de l'usine a été décidé avec poursuite de la production.
Le 18 juillet de cette année-là, on a décidé qu'on ne sortirait pas de l'usine et on occuperait.
Marie-France Lannoy.
C'était compliqué parce que c'était la veille des vacances. Mais finalement, je trouve que ça s'est bien mis en place quand même. Parce qu'on avait le syndicat qui était derrière nous. On avait beaucoup de militants avec nous et tout. Et ça s'est mis en place assez vite. D'abord, il y a eu beaucoup de volontaires pour occuper avec nous et surtout la nuit. Il fallait faire un roulement, il fallait un calendrier. Enfin, moi, je trouve qu'on a eu une organisation du tonnerre. C'est super, super. On a viré tous ceux qui... Voilà, on a fait une grosse assemblée générale. Et ceux qui ne voulaient pas occuper, on a expliqué le problème que... Voilà. Et ceux qui ne voulaient pas être avec nous, occuper avec nous, ils partaient.
Donc vous retrouvez à peu près une centaine de femmes, je crois.
Alors, on s'est retrouvés à 117 femmes et un homme. Un prêtre ouvrier qui était avec nous.
Alors Simon. Pourquoi un homme?
Ben parce que c'était le seul qui a voulu nous suivre. Parce qu'on avait des coupeurs, on avait des hommes avec nous. Les coupeurs, c'était des hommes et ils se sont tous défilés, hein, ils sont tous partis. Alors, pour quelle raison? Est-ce qu'ils ont eu peur? Comme ça ne s'était jamais fait, c'était un avenir incertain, c'est vrai, il faut reconnaître. On se mettait dans l'illégalité complète. Donc, la peur d'être viré par la police, enfin, un tas de choses. Hein. Après, il y en avait que ben, ils devaient rechercher un travail ailleurs. Parce que c'était certain qu'on était licenciés. Donc voilà, il y a eu un tas de raisons pour lesquelles tous les autres sont sortis. Sur 450, on est resté 118.
Nous, on n'a pas vécu le début de ce conflit, donc on a la mémoire de ce qu'elles nous ont raconté.
Annie Borzex.
Et ce qu'elles savaient, c'est qu'elles avaient besoin de travailler pour s'occuper, puisqu'il fallait occuper l'usine, il valait mieux travailler. En gros, au départ, elles ne savaient pas toutes qu'elles allaient avoir la CEDIC, mais elles ont eu 90% de leur salaire pendant un an, je pense. Et du coup, toute cette période, pour elles, ça a été une période d'apprentissage de l'occupation.
Alors, occuper l'usine quand on est une femme.
Occuper l'usine quand on est une femme, ben, c'est pas évident. Hein, le regard. Et il y avait surtout l'entourage syndical. Elles ont eu le soutien des élus locaux, elles ont eu le soutien des syndicalistes locaux, elles ont eu tout ça. Parce qu'une grève de femmes comme ça, parce que c'était l'époque de l'IP, c'était la CIP, c'était un des enfants de l'IP, mais une fille de l'IP. Mais elles étaient. Comment dire? Elles avaient le sentiment qu'elles étaient dans leur droit de revendiquer leur emploi, qu'elles étaient dans leur droit d'occuper leur usine comme les autres. Et voilà. Là aussi, c'était un peu comme vis-à-vis de leur mari, de leur entourage. Je fais ça, et voilà. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, elles ont occupé, elles ont eu affaire plusieurs fois aux forces de l'ordre, elles ont eu des moments de découragement, et puis elles ont survécu grâce à leur chemise.
Alors d'abord, peut-être Marguerite Marouani, elles vont décider l'autogestion. Elles continuent la production, mais alors sous certaines conditions.
Elles continuent la production sous contrôle ouvrier, de façon autogestionnaire. Il n'y avait pas de chef. Il y avait des représentants, mais pas de chef. Tous se discutaient, se votaient en assemblée générale. Alors, dans un premier temps, elles ont voulu couper avec le travail taylorisé ou le travail à la pièce. Et elles ont demandé à faire une chemise par femme. Et elles ont vu très vite que ça ne marchait pas, et donc elles sont revenues au travail habituel. Alors, quand même, petit détail qui a fait une de leurs fiertés. Il y avait quelques hommes qui travaillaient dans cette usine, et les hommes dans la confection, il y en a très peu, en général 10%, et ils occupent des fonctions bien particulières. Ils sont coupeurs, je parle des ouvriers, pas des administratifs. Ils font la coupe. Et la coupe, allez savoir pourquoi dans la confection, la coupe c'est le travail qualifié, alors que la couture c'est le travail non qualifié. Je n'ai jamais compris pourquoi techniquement, mais bien, c'est comme ça. Et donc, elles avaient toujours vécu avec cette image qu'elles, femmes, faisaient du travail non qualifié, que le travail des hommes, c'était l'aristocratie ouvrière, etc. Et donc là, elles ont vu que très rapidement, la coupe, elles pouvaient la faire, et que c'était pas plus qualifié de couper que de coudre. Donc ça aussi, c'était ça faisait partie de leur fierté, elles avaient fait le travail des hommes, comme les hommes, et hop.
Elles n'ont pas arrêté la chaîne, elles ont arrêté la cadence. Donc c'était pas du tout la même chose. Travailler sans cadence, évidemment, c'est un peu mieux. Et elles devaient faire 6 heures par jour de travail. Travailler autrement, c'était vraiment la cadence et les contremaîtres, je crois. Parce que sinon, le reste n'avait pas vraiment changé. La chaîne était là, le tapis, comme elles disent, ça n'avait rien changé de ce point de vue-là. Ce qui avait complètement changé, c'était toutes les décisions qui étaient prises en Assemblée Générale, toutes ces formes de démocratie, d'autogestion, alors pour le coup de la lutte, qui ont été particulièrement bien suivies, bien encadrées, bien ressenties et bien vécues. Apparemment, elles ont adoré faire ce travail d'information, comme elle disait, respect de la vie de chacun. Dès qu'il y avait un problème, on le votait. Il y avait 3 commissions. Il y avait la commission information, la commission production, la commission
transport,
popularisation. Enfin, bref.
Alors, on avait une assemblée générale toutes les semaines, régulièrement, le vendredi matin. Mais on avait, alors l'Assemblée Générale, elle donnait des idées qui étaient reprises par un comité de grève restreint d'une 10aine de filles qui analysait ce qu'on pouvait faire, surtout pour faire parler de nous.
Marie-France Lannoy.
Et après, ça remontait chez les délégués et on voyait, c'était ça le gros de l'organisation. Alors dans l'organisation, il fallait d'abord, il y avait l'équipe de délégués qui dirigeait avec le syndicat, parce que c'était elle qui était en contact direct avec le syndicat pour aller discuter avec tous ceux qui s'occupaient de la reprise, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était un repreneur. Pour nous, il n'était pas question de rester comme on était. C'était pas possible. On a étudié à un moment donné le fait de se mettre en scope, mais on était trop nombreuses. Ça n'aurait pas marché, parce que ce qui a fait la réussite de notre conflit, c'est que on a occupé à un moment stratégique où on avait un stock très important. Et ça a été le nerf de la guerre, comme on dit. S'il n'y avait pas eu de stock, on n'aurait pas pu le faire. On n'aurait pas pu tenir, parce que ce qui a fait que le conflit a duré aussi longtemps, c'est qu'il y avait un stock de produits finis, de chemises et de pyjamas finis, et un stock de tissus, mais énorme. Donc, on pouvait travailler et on pouvait échanger, pas vendre, hein. Échanger.
Alors, il faudrait que vous expliquiez un petit peu ça, parce que justement, vous êtes allé vendre, échanger, oui. Par solidarité, les chemises.
C'est très important parce que dans les élus qu'on avait de notre région ici, il y avait un monsieur qui était le maire d'une petite ville et qui était inspecteur des impôts, qui était de gauche. Et il nous a conseillé, il nous a dit surtout ne dites pas vendre, parce que vous ne vendez pas, vous échangez. Alors on échangeait des chemises ou des pyjamas pour 30 euros, pour 30 francs. Les euros, ça n'existait pas à cette époque-là. En 75, c'était encore les francs.
C'était 30 francs ?
30 francs, oui.
C'était
pas... Non, c'était 30 francs une chemise, oui.
Alors vous alliez dans la région, dans les autres usines, alors, il y avait la solidarité, effectivement.
Notre réseau commercial, c'était le syndicat qui s'occupait de nous chercher des usines. Et on s'installait aux portes des usines, on ne rentrait pas, hein. Et même à ce moment-là, il faut reconnaître que même la CGT était avec nous. On a vendu beaucoup dans des entreprises où il n'y avait que la CGT. Ils venaient nous accueillir, ils nous installaient des tables à tréteaux. Et puis voilà, on arrivait avec notre petit camion. Et puis.
Et ça, ça fait partie aussi, là aussi elles ont transgressé. Parce que pour échanger ces chemises, que faisaient-elles ? Elles avaient acheté un camion et elles sillonnaient les routes de France avec leurs chemises. Et elles allaient vendre leurs chemises. Voilà,
alors,
j'en ai gardé une.
Alors,
des chemises de là. De la solidarité.
Donc elle est encore toute, elle est toute enveloppée, toute poussière, enfin les sous-sons plastiques.
Oui, les sous-sons plastiques, avec ce grand panneau, CFDT, SIP vivra. Voilà, et ça, ça fait partie de leurs très bons souvenirs d'aller vendre. D'abord, elles étaient bien reçues, c'était, vous avez raison de rappeler l'époque, c'était les années 70, il y avait toute cette ébullition revendicative qu'il n'y a plus maintenant.
Elles allaient d'ailleurs dans d'autres usines qui étaient en grève.
Oui, elles allaient dans d'autres usines, elles faisaient la tournée des usines en grève. Elles ont été à Lippe, bien sûr, où elles ont été très bien reçues. Il y a eu beaucoup d'autres usines en grève occupées comme ça. Il y avait Tepaz, il y avait Cerisay, il y avait Grandin, il y avait toutes ces usines. Et elles étaient bien reçues partout.
Et alors donc, elle raconte bien ça, hein, quand vous les sollicitez. Elles étaient entre femmes. Et alors, c'était dur et en même temps, qu'est-ce qu'elles ont pu rigoler, quoi.
Oui, elles ont beaucoup rigolé. Alors, elles avaient leur petite
camionnette,
elles avaient leur petit bistrot, où elles allaient...
Il y en a une qui était chauffeuse.
Oui, voilà. Donc tout ça, tout leur était possible. Elles avaient décidé que tout était possible, là.
Et alors, pour pouvoir alimenter ces échanges, au début, on a loué un fourgon. Alors là aussi, c'était formidable parce que dans l'équipe des échanges, on appelait ça l'équipe des échanges, il fallait des volontaires et c'était toujours les mêmes, hein, parce qu'on était devenues des vendeuses hyper...
Oui.
Et on était à peu près 6 ou 7. Et on avait deux filles qui conduisaient le camion comme des vrais routiers, hein, ça... Lydie et Emilienne, c'était deux femmes assez costauds et c'était elles qui conduisaient. Et voilà, et on a sillonné toute la région, même la France. Hein. Ils ont été faire des échanges partout. Oui. Là, ils partaient plusieurs jours, hein, quand c'était dans le bas de la France. Ouais. Alors, mis à part les échanges qui, eux, alimentaient la cagnotte, mais nous, à l'intérieur de l'entreprise, il fallait occuper les gens. Donc, on a décidé qu'on continuera à travailler. Les échanges, elles signalaient quand il manquait, ben comme un réseau commercial, hein, il manquait des tailles dans telle couleur et tout. Elles donnaient leur compte-rendu en rentrant. Et les filles qui étaient... alors, on avait des filles qui étaient à la coupe, avec même des copains militants des autres boîtes. Par exemple, il y avait Kawé à Arnes. Hein, il y avait des coupeurs militants CFDT qui venaient nous montrer comment couper, parce que malheureusement, nos coupeurs étaient partis. Et après, dans l'atelier, ben, il a fallu occuper pas mal de filles. Hein. Donc, là aussi, on était organisé de façon qu'il fallait ramassage, parce que sinon les filles ne pouvaient pas venir. On s'est arrangé avec un transporteur, et là, notre transporteur Edmond, eh ben, il allait faire un ramassage. L'argent des échanges, finalement, ça servait à ça aussi. Hein. Mm-hmm. Parce que sinon, les filles, on n'aurait pas pu tenir.
Ben non.
Donc, le bus, il allait ramasser les filles au matin. Elles ne travaillaient que le matin.
Hein. Oui.
L'après-midi, c'était une occupation de principe. Alors là, bien sûr, on a décidé d'un autre mode de travail, c'est sûr. Hein, on n'allait plus se mettre à la chaîne comme avant. Donc là, chacune des filles, ça a été une innovation aussi. C'est que les filles ont souhaité, au lieu de faire un petit bout de la chemise, elles faisaient la chemise complète. Et pour beaucoup, ça les a bien appris. Après, il a fallu quand même revenir à l'ancien système, parce que quand on avait un col qui était cousu de travers, il fallait tout démonter, c'était pas marrant. Donc finalement, pour avoir, disons, une certaine production, quand même, il fallait revenir au premier principe, mais beaucoup moins vite, quoi.
Oh, il y avait toute cette idée qu'il fallait réorganiser le travail. Il y avait cette idée.
On a fait comme si c'était... on était en autogestion, carrément, à tous les niveaux. C'est là aussi qu'on s'est rendu compte qu'il nous fallait une cagnotte parce que ça nous aidait à payer l'électricité. On a fait des travaux, on a continué à entretenir les bâtiments. On a payé même la rénovation de la toiture des bureaux. Ça commençait à fuir, donc on a tout payé. Ah oui, on payait. Quand on a vendu l'usine, quand l'usine a été vendue 18 mois plus tard, le bâtiment était en bon état.
En relisant nos notes et notre livre, je me rends compte à quel point le fait qu'elle fabriquait des chemises, ça a été capital pour la réussite de cette grève. Les gens le disent d'ailleurs dans le livre, certains le disent, les syndicalistes le disent. Elle n'aurait pas pu tenir si longtemps, elle n'aurait pas pu vendre, elle n'aurait pas vendre, échanger, elle n'aurait pas pu parler aux gens dans la région surtout, entrer en contact comme elle le faisait, parce qu'elle rentrait tellement bien en contact, elle souriait, elle était gentille, elle était aimable, elle n'était pas le visage fermé, enfin bon. Elles offraient leurs chemises, voilà, donc il y avait un côté offre de quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu faire avec des boulons, quoi, évidemment.
Oui, c'est sûr, l'objet, de la même façon que chez Lip, c'était des montres. Et ici, dans les montres, c'était le symbole de ce travail hyper qualifié des ouvriers de Lip. Là, c'était un autre symbole, mais aussi, en effet, Annie a raison, c'est les chemises. C'est pas pour rien qu'on a appelé notre livre « Le temps des chemises ».
Février 1976.
Le souci des ouvrières évitait de tomber dans l'oubli. Elles ont multiplié les manifestations, Tour de France, meetings. Samedi prochain, par exemple, une marche sur la Cible doit être organisée avec les syndicats et les partis de gauche. Pas trop de problèmes financiers, le personnel licencié pour cause économique perçoit les 90%. La production sert à soutenir la caisse de solidarité. Mais le temps passe et les contacts connus n'ont pas pour l'instant abouti. Ce qui inquiète le plus les ouvrières, le bureau du patron, laissé intact, est toujours vide.
On en est à notre septième mode d'occupation et convaincu que les pouvoirs publics laissent pourrir l'affaire. Pour affirmer cela, on en a une preuve. Le syndic a envoyé à M. David une lettre avec 20 noms d'adresses d'industriels, plus 3 adresses hollandaises. Aucune suite n'a été donnée, rien n'a été fait.
On a parlé à un moment d'une reprise possible par un industriel, soit espagnol, soit hollandais.
Oui, c'est un espagnol, Lois. Aujourd'hui, on sait que la réponse est négative. Mais il y a un autre espoir de la part d'une filiale hollandaise. Ce qu'il en est, on n'en sait trop rien.
Alors comment voyez-vous l'évolution de la situation pour vous ? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une chance d'aboutir ?
On est persuadé que l'entreprise est viable, que si les pouvoirs publics le voulaient, l'entreprise pourrait redémarrer.
Mais vous cherchez un patron. Il n'est pas question pour vous de penser à une solution style coopérative ouvrière, par exemple ?
Non. Une coopérative dans un régime capitaliste, on n'y croit pas.
Donc c'est bien un patron qu'il vous faut.
Oui, on cherche un patron.
On a fait aussi la marche, si vous vous rappelez, quand on a fait la marche à Haine.
Je me rappelle, mais j'étais pas là.
T'étais pas là ? Ah, ça aussi, ça a été phénoménal. Les télévisions sont venues et comme ça a été vraiment... Tu te rappelles, Huguette, qu'on est parti du rond-point ?
Oui, et puis on est parti.
Il y avait du monde en manifestation et tous les militants qui suivaient tout. Et puis alors, une machine à coudre montée sur un chariot, habillée en sang et or, et puis écrit en grand cip devant. Et on a fait 3 kilomètres à pied comme ça. Il y avait du monde qui nous regardait. Mais c'était super, on se serait cru vraiment, je sais pas, c'est presque irréel, mais c'est vrai, ça a été fait aussi, ça. C'est-à-dire, on cherchait toujours des manifestations qui n'avaient jamais été faites.
Alors, d'imagination, là.
Ah, oui, ben ça, c'était le comité de grève qui... Et puis l'Assemblée Générale, les filles, quelquefois, elles donnaient des idées, mais on se demandait où est-ce qu'elles avaient été les chercher. Mais bon, après, on se demandait si on pouvait le faire. Et puis, si on pouvait, on se donnait les moyens de le faire, et on le faisait. Et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître partout, quoi, parce que, comme Lucien le dit, il fallait qu'on se fasse connaître.
Les cipettes.
Les cipettes. Avec les capes jaunes. Oui. Mais ça, c'est parce qu'on avait beaucoup de tissus jaunes. Jaune d'or. Mais ils ne partaient pas en chemise. C'est dommage, les hommes ne voulaient pas de chemise jaune d'or. Donc, il fallait trouver un petit uniforme pour qu'on nous reconnaisse quand on allait manifester. Donc, on avait confectionné des grandes capes, parce que les capes, ça allait à tout le monde. Que ce soit des minces, des grosses, des grandes, des petites, les capes, c'était l'idéal. Et alors, on avait écrit en ligne rouge de chaque côté, CIP. Et quand on allait en manif, comme par exemple à la Française, quand le ministre du Travail, Dornano, qui est venu, là, qu'on a été poursuivi par la police dans les champs. Ah oui, là, oui. Et bien là, on voyait des capes jaunes courir partout, parce qu'on courait dans les champs, quoi.
De la CIP apprenait qu'une entreprise belge, l'entreprise Velda, qui emploie 1950 personnes en France et en Belgique, était intéressée par leur usine.
Janvier
1977.
Hier, un représentant de Volta a rencontré les ouvrières de la CIP. Ensemble, ils ont mis au point une convention qui reprend les principales revendications des grévistes, l'une d'entre elles étant la priorité d'embauche pour les 120 ouvrières de la CIP ayant occupé l'usine. Donc si tout se passe bien dans 3 ans, cette usine occupée depuis 544 jours emploiera 250 personnes et fabriquera des coussins.
Et alors, quelques années plus tard, il y a donc deux sociologues, Annie Borzec et Margaret Maroni, voilà, qui viennent vous rencontrer et qui vous demandent de raconter.
On n'a pas fait de difficulté quand on a su qu'il y avait deux sociologues qui voulaient nous voir. Surtout, elles voulaient, je pense qu'elles voulaient savoir le conflit, comme ce qu'on vient de raconter, mais aussi ce que ça nous avait apporté, comment on se sentait, parce que là, il y avait quand même 4 ans qu'on était dans la nouvelle entreprise chez Velda, comment on voyait les choses 4 ans après, et quels bénéfices on en avait retiré, tout ça, ou est-ce qu'on avait gardé des mauvais souvenirs, enfin bref, tout ça, quoi. Et moi, j'étais contente que des sociologues, elles viennent pour faire un livre, parce que même si je dis maintenant que je ne redirai pas tout à fait avec les mêmes mots, parce que comme je vous dis, on a l'impression qu'on n'a fait que rigoler, mais pourtant, on l'a vécu, quoi. Et moi c'est une chose que je ne peux pas oublier. Je peux pas, je l'ai encore dans la tête, vraiment, les dates, tout. Tout est inscrit, et j'ai toujours dit que jusqu'à ce que j'ai l'Alzheimer, mais je l'ai dans la tête jusqu'au bout, quoi. Tellement ça m'a marqué que j'ai pu vivre ça.
On pourrait, les ayatollahs de la méthodologie pourraient nous dire que ces femmes que nous avons interviewées ne sont pas représentatives de l'ensemble. Et ça, c'est absolument sûr, elles ne sont pas représentatives. Pourquoi ? Celles que nous avons rencontrées, quand nous y sommes retournées, même, c'était, comment dire, celles qui avaient gardé un bon souvenir, c'était celles qui avaient gagné. Celles qui avaient réussi à se maintenir dans la grève, parce que c'était une des difficultés. Il y en a une bonne partie qui ne sont pas restées. Qui ne sont pas restées parce que c'était trop dur de faire la grève, d'assumer vis-à-vis de leur famille. Leur mari, en général, n'était pas d'accord. Donc nous avons vu celles qui ont réussi à tenir tête, qui ont réussi à faire front, qui se sont battues jusqu'au bout. Donc on n'a vu que les gagnantes. Leur origine sociale était à peu près la même pour toutes. Elles étaient filles de mineurs. Leur père, en général, était syndiqué et à la CGT. Et elles étaient à la CFDT parce que c'était la CFDT qui était là, mais elles étaient très CGT dans leur discours.
Donc à la fois, elles sont filles de mineurs, donc il y a un passé de la grève, évidemment, dans cette région, mais elles sont des femmes. Et donc c'est aussi ce qu'elles vont vous raconter, c'est que finalement elles transgressent quelque chose.
Elles transgressent absolument. Elles transgressent et, comment dire, celles que nous avons vues ont la fierté de la transgression.
Je ne me souvenais plus tellement du premier passage qu'on a fait là-bas, mais du second et de nos interminables voyages à Lens, ça je m'en souviens très bien. Et des mines, des terrils, de l'atmosphère locale et de nos rencontres qui étaient fréquentes et en même temps on était très différentes d'elles. Et du coup, on n'était jamais dans la sororité, jamais, jamais, jamais. Elles étaient différentes, elles savaient que nous, on n'était pas comme elles. On n'a jamais joué la trop grande proximité.
Est-ce que vous étiez les Parisiennes un peu ?
Elles ne nous ont jamais appelées comme ça devant nous. Mais on devait bien l'être, ou les intellectuels, je ne sais pas comment elles nous prenaient, peut-être pour des profs. Je ne sais pas très bien comment elles nous prenaient. Elles savaient qu'on s'intéressait à leurs conflits. Elles étaient pleines de leurs conflits à l'époque. Donc, elles avaient envie d'en parler. Elles en parlaient volontiers. Ce qui fait qu'on n'a jamais eu de problème pour embrayer la conversation.
Elles nous recevaient chez elles.
Margaret Maroigny.
Et elles nous recevaient bien. Il y avait toujours, évidemment, un petit café. On est dans le Nord. Il y avait parfois des petits gâteaux avec. Elles s'étaient habillées. Elles avaient été chez le coiffeur. Non, on allait la plupart du temps chez elles. Est-ce qu'on est allé parfois dans ce qui leur servait d'atelier de fabrication ? On y est allé dans cet atelier. Je ne crois pas qu'on y faisait les interviews.
On n'a pas fait d'interview là.
Et pas au restaurant, pas au bistrot. Ça, c'était pas possible. Ça.
On ne les a pas vues travailler. Maintenant que j'y pense.
Vous auriez voulu, du coup, ou ça vous
aurait... Avec le recul, moi, je dis que oui. J'aurais voulu les voir travailler. Et je ne sais pas pourquoi, on n'a pas pensé, on n'a pas voulu ou pas pu leur demander à l'époque.
Je pense qu'elles ne l'auraient pas non plus vraiment souhaité. C'était leur endroit, elles nous parlaient beaucoup de leur travail. On les faisait beaucoup parler de leur travail. Et ça les étonnait, d'ailleurs. Pourquoi ça vous intéresse, mon travail ? Mais c'est pas un travail intéressant. Si, si. Et donc, on les a fait beaucoup
parler de leur travail, même si ça ressort pas à toutes les pages parce que c'était pas l'objet central, mais quand même.
On n'a même pas tellement pensé à y aller.
Non.
Dans mon souvenir, on enregistrait.
Annie Borzex.
Bien qu'on n'ait pas retrouvé les enregistrements, malheureusement. Et moi, je prenais des notes. Mais je me souviens que nous n'avions quasiment jamais de silence. Il n'y avait aucune difficulté à les faire parler. Parfois, on intervenait avec une question, on orientait. Ben oui, nos entretiens étaient un peu orientés.
Et souvent, on les voyait à plusieurs, d'ailleurs. Et nous, on aimait beaucoup les voir à plusieurs parce qu'elles se renvoyaient la balle, elles se racontaient des trucs, des souvenirs. Donc voilà.
Oui, elles discutaient entre elles et c'était. Oui.
Et d'ailleurs, on a beaucoup utilisé leur dialogue, leur petit bout de dialogue, parce que souvent, ce qu'elles se racontaient entre elles était plus intéressant que ce qu'elles nous disaient à nous. Plus intéressant ou différent, en tout cas.
Je vais vous lire un petit extrait d'un dialogue entre Lydie et Marie-France. On en a fait un petit encadré qui s'appelle Le sexe endurci. Lydie. Combien de fois mon mari me dit « Tu ne saurais peut-être pas le faire ce que je fais ». Je dis « Pourquoi ? Pourquoi on ne saurait pas le faire ? Une femme, elle sait tout faire si elle veut, quand elle veut, elle y arrive. Il y a des femmes qui soudent, il y a des femmes qui font des couvertures, de toitures. D'ailleurs, plus d'une fois, on l'a dit avec les copines, il faudrait que nos maris nous voient travailler. Ils ne le feraient pas, moi je suis sûre qu'ils ne le feraient pas. On a tout comme les hommes. » Marie-France, il y a peut-être certains métiers où il faut vraiment beaucoup de force et puis qu'enfin, il y a des femmes très fortes. Lydie, bien sûr, Marie-France, on a toujours tendance à dire le sexe faible. C'est plutôt le sexe qui est le plus endurable, Lydie, le plus endurant, ça c'est vrai. Marie-France, c'est vrai, on a le sexe le plus endurci.
Les maris ont des positions extrêmement variées, finalement. En relisant tout ça, je me suis dit, tiens, toutes les nuances de l'arc-en-ciel y sont. Il y avait ceux qui étaient carrément contre et qui s'y opposaient. Il y avait évidemment ceux qui étaient plutôt syndicalistes eux-mêmes, mais qui laissaient faire leurs femmes. Il y en avait qui étaient beaucoup plus aidants et qui acceptaient de travailler à la maison pendant que leur femme n'était pas là. La petite Michèle, elle raconte ça assez bien. Donc les hommes, dans tout ça, ont joué des rôles extrêmement variés, finalement. Et les voix d'hommes sont intéressantes. Les quelques voix d'hommes qu'on a pu nous recueillir ne sont évidemment pas à l'image des maris.
Ils n'ont pas voulu nous parler.
Alors, il y en avait une ou deux fois qui restaient durant l'entretien et qui disaient rien, qui disaient pas un mot. J'ai trouvé ça dans mes notes. Ils étaient là, ils écoutaient, comme ça. Et à la fin, on a dit, monsieur, vous pourrez regarder tout ça dans le livre quand on l'aura. Et le mari dit, mais non, elle me le racontera, elle me le lira. Comme si eux ne lisaient de toute façon pas. Donc, les hommes dans l'affaire,
alors, ceux que vous allez interviewer, c'est les hommes,
c'est le maire, c'est les... Oui. Ceux qui étaient favorables au conflit et qui étaient soit syndicalistes, soit un gars de la Française de mécanique qui est là aussi.
Qui les ont aidés.
Ah,
parce
beaucoup.
Que autant les hommes de la CIP n'ont pas fait grève, autant la Française de la mécanique
tout à fait.
Les ont aidés.
Apparemment, les syndiqués de la Française de mécanique étaient assez admiratifs. Et ils venaient occuper le soir avec elle, ils racontent tout ça. Puis c'était très sympathique, et ils allaient occuper avec elle, ils passaient des bonnes soirées, des bons dimanches, enfin bon, la fête quoi. Et tous les pères, par contre, qui étaient eux-mêmes mineurs et qui avaient fait des grèves eux-mêmes, et qui étaient syndicalistes la plupart, et communistes pour beaucoup, étaient tout à fait proches de leur fille, et les soutenaient. Enfin bon, ils n'étaient pas du tout contre. Ils n'ont pas activement aidé. Je ne crois pas me souvenir que l'une nous ait dit « Mon père est venu occuper ». Non. Par contre, elle se sentait totalement autorisée à faire ce qu'elle faisait grâce à ce patrimoine familial qui était du côté de la lutte. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Vous avez tout réécrit.
On a tout réécrit au sens où on s'est inspiré de nos 1000 pages d'interview pour fabriquer les 4 récits. C'est pas nous qui les avons écrits, les récits. C'est leurs paroles que nous avons un peu toilettées. Mais on a écrit les portraits et les petits flashs, là. Et d'ailleurs, quand on est allé les voir après pour la restitution, elles ont dit « Mais pourquoi vous n'avez pas tout écrit comme ça, puisque vous savez écrire ?» Et voilà. Donc, on a été obligé de leur expliquer que non, on ne voulait pas tout réécrire du tout. Mais ce qu'on a fait quand on a fait notre montage de nos quatre voix, de voix principales, c'est qu'on n'a pas du tout suivi l'ordre des propos de l'entretien. Mais on n'a pas non plus cherché à suivre un ordre chronologique, ni un ordre thématique du tout. On s'est laissé embarquer par l'envie de rendre compte de ce qu'elles nous ont dit à travers leurs propres associations, leurs propres contradictions, leurs propres façons d'aborder les choses et d'entrecouper le public et le privé, le politique et le syndical, le quotidien et l'exceptionnel. Donc tout ça formait un espèce d'ensemble dans lequel nous, on a pioché ce qui nous semblait être le plus... pas le plus marquant, le plus utile pour comprendre la personne. Voilà, on a fabriqué des mini-récits en essayant de respecter ce qu'on avait ressenti de la personne. Et puis on a fait très attention à mettre dans chacun des entretiens des flashs, comme on disait, des flashs et des portraits pour les autres, pour tous ceux qui n'étaient pas les voix principales. Puis à la fin, on a rajouté les petites chansons en début de chaque chapitre.
On a beaucoup, en fait, Annie, on a beaucoup travaillé la forme. Garder l'oral dans l'écrit, mais en effet, tout ce travail sur les titres, sur les prénoms, sur les sous-titres, c'est bourré de...
On y a beaucoup travaillé ça.
On a beaucoup travaillé ça en jouant sur les mots. Et c'est vrai que la forme de ce livre, ça a été beaucoup de travail, mais c'était un travail extrêmement agréable.
Oui, très. Par contre, elles ont été dures à convaincre qu'on avait travaillé. Et notre travail ne se voyait pas. Quand Charline dit « Oui, mais votre travail, c'est quoi ?» Et alors, on finit par lui montrer un des entretiens qu'on a découpé, collé, redécoupé, repris. Et là, elle dit « Ah ben ça, j'en reviens pas. » Mais même là, elle n'était pas complètement convaincue, parce qu'elle disait « Bon, mais vous nous arrangerez tout ça. »
Oui, c'est ça.
Et puis, c'est quand même un peu long. Tout ça. Oui.
Et vous, alors, vous êtes partagé les portes. Comment vous avez fait justement? Enfin, est-ce que tout était collectif ou...
On en a parlé l'autre jour au téléphone. Moi, je me souvenais qu'on s'était un peu réparti les entretiens. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une liste. Annie a pris ceci et Margaret a pris cela. Mais après ça, on a mélangé nos efforts et on a travaillé sur le même entretien toutes les deux.
Ça, oui, c'est ça
aussi.
C'est ça. On faisait une première
sélection.
Et c'est vrai que c'était des mille feuilles. Parce qu'on coupait, on recollait, puis après, puis il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque.
Donc vous ne les avez pas tapés, ces entretiens?
Si,
quand même.
On les a fait retranscrire.
Entièrement.
1000 pages. Mais c'est à partir de ces 1000 pages qu'on a photocopié, qu'on a coupé, collé avec des ciseaux et du scotch.
Ah,
donc
oui, oui.
On avait des mille feuilles comme ça.
Mais heureusement, parce que comme ça, on a pu le montrer à Charline.
Oui.
La preuve aussi.
La preuve.
Quand nous avons fait le livre, bien sûr, nous l'avons envoyé à toutes celles que nous avons interviewées. Elles avaient le droit de changer, de refaire. Elles nous ont renvoyé le manuscrit en nous disant « Mais c'est pas bien écrit. Votre métier, c'est d'écrire. Là, on a l'impression qu'on parle et en plus, on parle pas bien. Non, non, il faut réécrire. » Là, on a essayé de leur dire qu'on voulait garder l'oral, justement, que il fallait pas que ça fasse trop écrit. On a eu des discussions comme ça. Bon, au bout d'un moment, elles nous faisaient confiance, elles ont accepté, mais on a quand même passablement réécrit, beaucoup plus que ce qu'on aurait souhaité. Et en fait, quand je relis, je pense qu'elles avaient raison, parce que laisser trop d'oral, c'est pas la peine. Bon, donc ça, c'était avec elles, mais elles étaient contentes, donc elles voulaient garder leur prénom, elles étaient très fières qu'il y ait un livre.
Elles disent notre livre.
Elles vous ont dit, c'est un autre livre. Ah, bien sûr, c'est leur livre, bien sûr. Et on a eu aussi une discussion comme ça, quand le livre a été quasiment fini, on a envoyé le manuscrit aux syndicalistes locaux qui nous avaient beaucoup aidés, beaucoup soutenus, et on est allé les voir une dernière fois, c'était en novembre, avant de boucler complètement le manuscrit, à Lens, et... Roger Toutain était venu avec nous. Roger Toutain, c'était le chef de la fédération Acutex, habillement cuir textile, qui à l'époque était une des fédérations très à gauche de la CFDT. Roger Toutain avait beaucoup, beaucoup soutenu ce projet et ce livre, donc il était venu. Nous étions allés tous les trois à Lens. Et là, on s'est retrouvés un peu comme devant un tribunal, ces syndicalistes qui nous avaient soutenus. Ils avaient le manuscrit et puis ils avaient noté un certain nombre de paragraphes, de pages qu'ils voulaient nous faire enlever. Alors, c'était des petites choses, des petits détails. Mais là, pourquoi est-ce qu'elle vous raconte cette histoire de qui fait les courses à la maison? C'est pas intéressant, on enlève ça. Et puis, tout ce qui était les rapports avec leur mari, il aurait fallu enlever. Et puis, alors, il tombe sur l'histoire du camion, justement, et des petits chocolats au kirsch qu'elle buvait. Alors là, pas possible. On va dire que les femmes de la classe ouvrière boivent. Il aurait fallu enlever ça, alors. Ça continue. On commence à se regarder avec Annie en disant, bon, jusqu'où va-t-on aller? Et oui, on est allé jusqu'à ce qu'à un moment, il y a l'un d'entre eux, j'entends toujours cette phrase, nous dit, mais enfin, est-ce que vous avez l'autorisation des maris pour publier ces témoignages? Là, on a dit non. On s'est levé, on a fermé nos calepins et tous les trois, comme un seul homme, nous sommes repartis. Et je me souviens, c'était un jour de novembre, il faisait un temps, on était vraiment dans le brouillard du Nord, on attendait le train sur le quai de la gare pour rentrer. Roger Toutain nous avait suivis, il était furieux lui aussi. Et je me souviens d'Annie Borzex, qui, on s'était acheté des sandwichs SNCF, là. Et on était sur le quai de la gare, et à un moment, elle a dit, et si c'est ça le syndicalisme, mais zut! Et elle jette son sandwich SNCF sur le quai. Et du coup, on n'a rien enlevé de ce qu'ils nous ont demandé. Et on s'est contenté d'avoir l'aval des femmes de la CIP. Parce que, en effet, c'est leur livre. C'est nous qui l'avons écrit, mais c'est leur livre, c'est leur histoire.
Alors, je commence tout de suite en disant que mes notes, je n'ai malheureusement pas noté avec qui est cette réunion. Je sais que ce sont des militants de la Fédération à Cuitex. Alors,
donc c'était la réception.
C'était la réception. Nous, on continue à nous défendre et on leur dit l'objet était clair dès le départ. C'était l'après-conflit, la trace, le discours des gens, non pas notre écriture. Vos réactions sont des réactions de militants, on leur a dit, impliqués directement dans l'affaire. Vous ne pouvez pas nous dire que c'est pas un livre juste parce qu'il vous plaît pas. D'ailleurs, on l'a fait lire à des professionnels et des non-professionnels, notre patron de labo, les secrétaires, un médecin du travail, des collègues. Les gens disent c'est original justement parce que c'est pas un tract militant. Et parce que le but, c'est de montrer comment les gens peuvent être transformés par une expérience syndicale. On va le dire et l'expliquer dans l'introduction. Personne n'avait lu l'introduction encore.
Mais là, on voit bien que voilà, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde.
Non, pas du tout. Et puis alors, on leur raconte que c'est de la sociologie sous d'autres formes. Notre travail sociologique, c'est de montrer quelque chose et que la vérité est plurielle. À la différence du syndicat, qui croit jamais que la vérité est aussi plurielle que ça et qu'il y a une différence entre le discours et la pratique, ça, nous, on le sait, et que c'est contradictoire et que c'est dialectique, vous n'avez pas perçu l'aspect sociologique du travail. Mon Dieu, on était épouvantables, hein. Vous pensiez que notre travail était de corriger les fautes de français. De votre part, on n'en revient pas de la censure, etc. Alors, si je termine quand même par le premier, celui qui nous avait donné le feu vert, hein, on le revoit à la fin, et il nous dit qu'il n'est pas du tout content non plus. Il dit il manque quelque chose d'important, il manque une tendance. Et puis c'est très féministe, hein. Et puis c'est anti-structure, et c'est basiste, c'est dangereux. Ça, c'était le mot qu'il a dû prononcer quand même.
Pour les syndicalistes, pour ceux-là en tout cas, la question du travail ne leur posait pas problème. La question de la grève, pas vraiment non plus. Tout ce qu'elle racontait des effets de la grève sur leur vie familiale, sur leur rapport avec leur mari, avec leurs enfants, ça c'était de l'ordre du pas supportable, du pas audible.
Parce que la vie privée.
La vie privée. Cette grève leur a procuré beaucoup de choses positives, y compris dans le privé. Elles le disent toutes, qu'elles ont gagné en autonomie, qu'elles ont gagné en assurance, qu'elles ont gagné. Mais ça, c'était inaudible.
Et la réception de cet ouvrage, justement, alors d'un point de vue institutionnel?
Alors, la réception, comment dire, on n'a pas été vraiment lu par les sociologues. Franchement, ça ne les a pas intéressés. En revanche, on a été lu par les historiens et les historiennes qui travaillent sur l'histoire orale. Voilà, c'est dans cet univers-là qu'on a été lu. Pour les sociologues du travail, qui était le milieu dans lequel nous étions, une grève de femmes, franchement, ça ne les intéressait pas trop. Le travail des femmes, à l'époque, franchement, ce n'était pas admis que le travail se conjuguait au féminin comme au masculin. C'était pas...
Qu'il fallait introduire la notion de genre dans
le travail. Oui, alors ça, on n'était pas du tout. Sur le genre, on n'y était pas. Moi, c'était l'époque où moi, je passais mon temps, quand je discutais à la cantine du CNAM avec mes collègues, à leur expliquer que les femmes au travail, c'était pas une minorité. Je leur disais les chiffres, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux chiffres. Parce que les chiffres, ce sont des armes. Je dis non, les femmes, c'est une minorité. Non, 45% de la population active, j'appelle pas ça une minorité. Mais bon, c'est pas grave, on a fait un beau livre, on en est contente. Alors notre éditeur, quand on lui a parlé du projet, c'était Cyrus. Tout de suite, il a trouvé ça une très bonne idée. Il a trouvé le livre très bien, il était très content quand on a remis le manuscrit. Après, ce livre, il s'est pas vendu. Je pense que c'est un livre des années 70 qui est sorti au début des années 80. Mais c'était formidable, ça aussi, parce qu'ils ont continué à penser que c'était un bon livre. Et ils m'en ont redemandé un autre deux ou trois ans après. Voilà.
Bon. Vous aviez la confiance de votre éditeur.
Oui, oui. Et les collègues, ben, ma foi, on s'en fichait. Mais moi, j'ai appris beaucoup en les entendant parler de leur travail. C'est quelque chose qui m'est resté pour l'ensemble de ma trajectoire intellectuelle après. Parce que quand elles nous parlaient de leur travail, elles nous parlaient d'un travail dur. Elles n'avaient pas choisi ce travail. Et en même temps, elles se sont battues pendant 3 ans, bec et ongles, pour garder leur emploi. C'est là que j'ai vu, de mes yeux vus, cette différence entre le concept de travail et celui d'emploi. Si on peut, à ce point, détester son travail et en même temps se battre pour son emploi, c'est que le travail et l'emploi, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, elles m'ont appris ça. Et je raconte souvent des bouts de cette enquête à mes étudiants pour leur expliquer le concept de travail, le concept d'emploi, je leur raconte le temps des chemises pour leur expliquer combien, pour les femmes, le droit à l'emploi, c'est un enjeu qui se joue sur le marché du travail, mais qui se joue aussi dans la famille, à la différence des hommes.
Merci à Marie-France Lannoy, Annie Borzex et Margaret Marouani. Merci également à Lucia, Huguette et Myriam. Prise de son, Jérémy Tuile et Clémence Bonfils. Mixage, Pascal Bénard. Le temps des chemises, le temps d'une enquête, Séverine Yattard et Séverine Cassard.
Demain, nous continuons et nous terminons cette série courte d'émissions autour de l'histoire du textile en nous intéressant au textile au XVIIIe siècle. Les toiles de Jouy et les indiennes seront au menu de la Fabrique de l'Histoire demain.